Ben.
À la une, cette enquête ouverte après les morsures de requins à Moorea. On reviendra aussi sur ce vote à l'Assemblée nationale, l'aide à mourir qui pourrait s'appliquer ici au Fénois. Et enfin, du surf pour terminer, vous entendrez Vahine Firo. Le journal de rédaction est présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on commence avec cette enquête ouverte par le parquet après une morsure de requin.
Ouverte pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, ça s'est passé sur le banc de sable de Tiahura à Moorea il y a une dizaine de jours. Une jeune femme avait été attaquée par deux requins pointe noire et s'en était tirée avec 38 points de suture. À notre antenne, elle avait raconté avoir été prise par malchance dans une chasse, mais elle avait dénoncé aussi l'excitation des animaux provoquée par du feeding. À quelques mètres de là, effectivement, des prestataires touristiques nourrissaient les raies et les requins, avait-elle expliqué. Un feeding interdit en Polynésie, mais qui reste pratiqué sur ce site très fréquenté. Elle avait d'abord tenté de porter plainte auprès de la gendarmerie de Moorea, mais surprise, on a refusé.
Quand je lui ai dit, est-ce que le feeding, normalement, c'est pas tout court, pas autorisé, il a commencé à me dire que même s'il connaissait pas bien les textes de loi, il y avait des différents types de feeding, donc un vrai feeding où c'était un endroit où tu allais, tu mettais des gros bouts de poisson, etc. Et que là, c'était pas le cas, c'était plutôt du smelling. Et en fait, c'est ensuite, sur Internet, que je me suis aperçue que de toute façon, tout ça n'était pas autorisé.
Voilà, feeding ou smelling. Alors smelling, ça consiste à déposer des morceaux de poisson sans vraiment leur donner. C'est de toute façon interdit en Polynésie française. C'est donc à la presqu'île de Tahiti où elle réside qu'elle a porté plainte. Et cette fois, la gendarmerie de Taravao l'a bien enregistrée. Les autorités lui ont confirmé hier que le parquet a ouvert une enquête pour blessure involontaire et mise en danger d'autrui. La biologiste marine qui vit à Tahiti depuis 10 ans espère que cette affaire relancera le débat sur le respect de l'interdiction du feeding.
Il paraît important de noter que avec le feeding, le comportement des requins est modifié. Et donc moi, c'est certes un concours de circonstances, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et l'idée, c'est de dire, le feeding ou le smelling, peu importe ce que c'est, ça les rend excités et en fait, c'est plus propice aux accidents. Donc si on pouvait arrêter de faire ça, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux.
Beaucoup mieux, effectivement, mais ces dispositions sont diversement appliquées et peu sanctionnées aujourd'hui sur le terrain.
On parle justice à présent avec le tribunal administratif qui s'oriente bien vers une annulation de la délibération Géros.
Le texte voté en décembre autorisait le président de l'Assemblée à poursuivre l'État en justice dans le dossier de la décolonisation. Le Conseil d'État saisi pour avis avait recommandé l'annulation du texte et le rapporteur public est allé dans le même sens hier à Papeete. Le président de l'Assemblée, en s'arrogeant ce droit à attaquer l'État, empiète sur les compétences du président du pays. Mais Moeté Broverson ne veut pas prendre le relais, il ne s'est pas joint à la procédure et ne compte pas le faire.
Moi, ce n'est pas dans mes intentions, ce n'est pas la méthode que j'ai décidé d'adopter depuis que je suis élu. C'est ce dont j'essaie d'ailleurs de convaincre l'État, qu'il faut faire sans en arriver devant les tribunaux. Non, j'attends beaucoup de mes rencontres lors de mon prochain déplacement à Paris.
Et il repart effectivement en France début juin pour la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice et plusieurs rendez-vous officiels et diplomatiques dont le sommet France-Pacifique. Et quant aux indépendantistes, ils vont poursuivre leur offensive judiciaire. Le Tavigny a déposé d'autres recours au nom de l'Assemblée du parti et en nom propre pour certains élus. Une fois les voies de recours nationales épuisées, le parti compte bien aller à l'international et notamment devant le Haut Commissariat et le Comité des Nations Unies aux droits de l'homme.
À toujours au tribunal administratif, les trois voiliers en baie de Verreil devront partir.
Ils doivent quitter la baie effectivement sous 5 jours. Si ses propriétaires ne respectent pas cet ordre d'expulsion, ils devront payer 10 000 francs par jour. Certains avaient pourtant expliqué à l'audience n'avoir aucune autre solution de mouillage. Et ce prof de philo aussi, dont le ministre de l'Éducation avait interdit l'entrée de son lycée à Taravao, il a eu de gain de cause. La décision du ministre a été annulée. Et enfin, le rapporteur public a aussi conclu en faveur de 3 des ayants droit fonciers d'une partie du terrain de Moumouvaille sur lequel se trouve la décharge de Faa. Les indivisaires en question réclamaient chacun près de 10 millions de francs pour l'occupation de leur terrain. Le rapporteur propose un peu plus de 2 millions par personne. La décision est attendue le 10 juin. Une décharge pour laquelle la mairie est mise en examen pour pollution et exploitation sans autorisation d'une installation classée.
Vous écoutez le journal de la rédaction, il est 7h05, on parle politique à présent avec ces débats en séance plénière de l'Assemblée, c'était hier.
Oui, d'abord autour du décès d'Aiden sur lequel Minari Galnon a été interrogée par l'opposition. La vice-présidente était hors territoire pour raison familiale, un décès dans sa famille. C'est donc la ministre du Travail, Vanina Krolla, qui a répondu. Elle a lu la réponse écrite de la vice-présidente qui a reconnu des carences du système de protection de l'enfance. Dans sa question, la représentante Cathy Puchon demandait des précisions sur le décès de la petite fille, mais pas question pour l'exécutif de révéler des éléments de l'enquête en cours. La membre du gouvernement rappelle seulement que les trois enfants vivaient depuis 2020 dans cette famille après des signalements de violences conjugales dans leur foyer d'origine et une décision du juge des enfants. Le couple qui les accueillait, aujourd'hui mis en examen pour violence et maltraitance, avait été désigné tiers digne de confiance. Cet homme et cette femme, aujourd'hui en détention provisoire, avaient fait l'objet d'une évaluation positive par la DSFE. Des contrôles ont même eu lieu, conformément à la réglementation, il n'avait pas révélé de maltraitance. Une réorganisation de la DSFE est déjà en cours, a précisé Minari Galnon dans son courrier. Elle va donc se poursuivre et des assises de la petite enfance vont être organisées.
Cette petite frayeur aussi pour une vingtaine d'étudiants dont on a parlé hier à l'Assemblée.
À deux mois de la fin de leur formation d'aide-soignant à l'Université de la Polynésie française, ils risquaient d'obtenir un diplôme qui n'était pas reconnu par l'État. Il manquait la signature de la convention entre le pays, l'État et l'Agence régionale de santé de Bretagne. Interpellé à l'Assemblée par Nicole Sanquer, le ministre de la Santé a répondu que la convention était arrivée le jour même au commissariat et qu'elle sera signée à temps.
Je pense que c'est prématuré pour ce qui est de l'extension à la Polynésie.
Cette fois, à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'aide à mourir a été adopté hier. S'il est validé par le Sénat à l'automne en France, il ouvrira la voie au suicide assisté, voire à l'euthanasie des personnes atteintes de maladies incurables, y compris en Polynésie où le texte pourra être étendu par simple ordonnance. De quoi faire réagir les élus locaux et Moira Nifrebo, dont le son est parti un peu vite, on va le mettre tout de suite. Il doute que les Polynésiens soient prêts à accepter ce dispositif sans un large débat.
Je pense que c'est prématuré pour ce qui est de l'extension à la Polynésie. Les élus autonomistes, en tout cas ceux du Tapura, m'ont demandé à ce que le texte ne soit pas étendu en Polynésie avant qu'il y ait eu un débat de société local sur ce sujet. Effectivement, est-ce que la population polynésienne est prête ou pas? C'est nécessaire, je pense, d'en débattre au préalable, que ce soit avec les communautés religieuses, les élus, la société civile. Et une fois que la société polynésienne se sera exprimée, à ce moment-là, on pourra décider de l'opportunité ou pas d'étendre le texte. En France, les échanges ont été nourris et c'est pas normal qu'on en discute pas du tout en Polynésie. Je suis pas sûr que la population polynésienne soit prête.
Nicole Sanquer s'interroge, elle, sur les capacités techniques d'appliquer ce texte localement. Elle voudrait aller à la rencontre des équipes médicales pour savoir si nous sommes équipés, formés et suffisamment armés pour accompagner les familles. Moetei Broverson estime, lui, que le projet va dans le bon sens, mais regrette un système qui ne tient pas compte des singularités de la société polynésienne.
Ce qu'on peut regretter, c'est effectivement que ce débat se passe à Paris et qu'ensuite cette loi soit appliquée par voie d'ordonnance chez nous. Sur le texte en lui-même, je n'ai pas de remarques. Je pense que c'est un bon texte. En revanche, encore une fois, les Polynésiens ne sont pas consultés. Or, on va dire que la société polynésienne est différente de la société hexagonale. Il y aura un avis consultatif, comme vous venez de le rappeler, normalement. Souvent, cet avis nous est demandé alors que l'ordonnance est déjà passée. Bon, on verra. Mais ça ne changera rien au déroulement des choses.
Et la loi va continuer sa navette parlementaire. Elle doit être étudiée au Sénat d'ici la fin de l'année en France.
7h08 et on parle sport, Lucie, pour terminer ce journal avec Vahiné Fierro, éliminée malheureusement du CT après 6 mois de compétition intense.
Éliminée effectivement pour cette fin de saison avec le fameux cut de mi-saison qui ne fait passer que les 10 premières. Et la surfeuse de Vahiné est classée 12e, c'est donc pas passé loin. Mais on la reverra avec les meilleures surfeuses du monde dès la prochaine saison. On vous a déjà annoncé ces nouvelles à cette antenne. Et Vahiné Fierro a répondu à nos questions, parlant d'une saison intense, un premier bilan plutôt positif de cette première expérience parmi l'élite mondiale.
On a un terrain de jeu qui change constamment et savoir s'adapter à chaque vague rapidement, c'est beaucoup d'informations d'un coup. J'ai fait de très belles performances comme des moyennes et c'est ça le sport de haut niveau. Il n'y a pas de place à l'erreur et j'ai pu faire des erreurs tactiques, stratégiques, ce qui explique mes éliminations précoces. Et c'est une bonne chose parce que mon surf est là et c'est le plus dur à avoir. Le reste, le mental, l'aspect stratégie, ça se travaille et la progression est rapide.
Elle devrait retrouver le Championship Tour dès la prochaine saison et entre-temps, elle envisage de participer à une ou deux étapes des Challenger Series, notamment l'US Open de Huntington. Elle veut également explorer d'autres vagues dans le monde et continuer à faire évoluer son surf et elle a plusieurs projets qu'elle partagera sur les réseaux sociaux. Et surtout, elle espère que la WSL lui accordera une wildcard pour être sur la Tahiti Pro à Te Ahupo en août. Et vous pouvez retrouver son interview complète sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, à tout à l'heure.